Vous êtes sur RTL. Pro sur RTL.
Christophe, qui est donc policier dans le Sud-Est. Christophe, votre collègue décédé vendredi, vous fait réagir.
Ça me fait réagir d'abord une très grosse émotion parce que c'est une mère de famille qui a été tuée dans des conditions tout simplement abominables. Donc ça une très grosse émotion, ça fait mal. Une colère aussi parce que de nouveau, un policier, enfin des membres des forces de l'ordre sont victimes de cette barbarie.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que dans la police, vous imaginez parfois, pour que vous soyez davantage protégé, des nouvelles mesures? Par exemple, cette dame n'était pas armée. C'est vrai que c'est une. Les administratifs, les policiers administratifs ne sont pas armés.
Non, effectivement, mais on va de toute façon, je ne pense pas que la solution passe par l'armement des personnels administratifs dont ce n'est pas le rôle, tout simplement. Malheureusement, ce type d'incident, je ne vois pas comment on peut l'éviter. Hein, un individu qui se promenait avec un couteau, qui voit une personne entrer dans un commissariat, qui profite d'un sas avec un système d'ouverture, une porte ne peut s'ouvrir quand l'autre est fermée, se place derrière et l'égorge parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est quasiment imparable. Donc là, on en est à réfléchir comment est-ce qu'on peut protéger les policiers qui sont censés protéger la population. C'est quelque chose d'empirique et on n'en verra jamais la fin à ce rythme-là. C'est assez effrayant comme situation. Ça vient s'ajouter vous entendez tous les jours. Bon, là, Rambouillet, c'est un drame absolu. Malheureusement, on revit ce qu'on avait vécu déjà à Magnanville avec le couple de collègues qui avait été tué dans des conditions quasiment similaires. Donc effectivement, je vois pas de solution personnellement. Je me demande ce qu'il faut faire.
Il y a des solutions déjà quand on apprend le profil du tueur. Oui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est entré en France de manière irrégulière. Et on s'aperçoit que les derniers actes terroristes en France, ce sont des gens immigrés qui sont venus sur notre pays, qui n'avaient au fond rien à y faire.
Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que certains politiques actuellement, certains hommes politiques découvrent cette situation. Nous, on la vit tous les jours. Moi, je vois mes collègues être obligés de raccompagner dans des centres de rétention administrative des gens qui sont en situation régulière depuis des années, qui ne sont jamais expulsés du territoire national. Jamais expulsés. Il y a toujours une décision de justice qui consiste à les remettre en liberté. Ces gens-là sont dans la nature, on ne sait jamais où. Les OQTF, les obligations de quitter le territoire, ne sont quasiment jamais effectuées. Quand j'entends des fois des chiffres qu'on nous dit où un ministre peut se targuer d'avoir fait expulser cette année quelques personnes, mais par rapport au nombre de décisions qui sont prononcées, le nombre de décisions exactement effectuées, mais c'est quasiment rien. Donc ça me met en colère parce qu'on a un nombre de gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national, qui y sont quand même, sans que ça ne semble inquiéter grand monde. Et on voit maintenant le profil de ces gens-là, comme vous le dites effectivement, où là, il va peut-être falloir se poser la question. Donc plutôt que faire voter de nouveau des textes de loi antiterroristes qui, de toute façon, ne changeront pas la situation dans l'immédiat, il suffira peut-être d'appliquer simplement des décisions de justice, de quitter le territoire et entre autres.
Il y a quelque chose qui m'a surpris, qui est évidemment accessoire, mais qui prend aujourd'hui, à l'aune de ce drame, forcément un relief différent, c'est que cette jeune femme, Stéphanie M., elle sort donc du commissariat pour, si j'ai bien compris, aller mettre un neurodateur, en tout cas aller mettre de l'argent pour le stationnement de son véhicule. C'est-à-dire que les policiers qui viennent travailler dans un commissariat de Rambouillet doivent payer toute la journée le stationnement de leur voiture.
Et ça, c'est
accessoire, bien sûr, ce que je dis là. Sinon, je le répète, qu'à l'aune de ce drame, elle ne serait pas sortie.
On est bien d'accord.
S'il y avait un parking. J'ai trouvé ça absolument incroyable que vous soyez obligé de payer le stationnement lorsque vous allez travailler les policiers.
Mais il n'y a pas de passe-droit, mais je vous raconterai des commissariats en région parisienne dans le 93 où les collègues sont obligés de se stationner dans des secteurs où il est quasiment impossible de laisser son véhicule sans se le faire dégrader systématiquement. Donc les collègues sont obligés de se garer extrêmement loin pour éviter...
C'est là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, si on pouvait favoriser et permettent aux policiers de travailler dans des meilleures conditions, je trouve que ça serait quand même une bonne chose que les policiers n'aient pas à payer le stationnement de leur voiture lorsqu'ils travaillent. Je vous répète, ça c'est complètement accessoire, hein. Bien sûr.
Non, mais ça m'a étonné. Pour ces petits éléments qui, mis bout à bout, démontrent un petit peu la situation et l'état dans lequel les fonctionnaires de police sont obligés de travailler dans certains endroits. Ce n'est pas le cas partout, et bien évidemment, des commissariats qui sont construits actuellement et des grands parkings qui sont prévus pour, mais ce n'est pas forcément le cas.
Merci Christophe, en tout cas, et merci, vous êtes le premier à intervenir en ce lundi. Je salue Greg Caranoni et je vous rappelle tous les sujets du jour, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, beaucoup hein, de sujets. Les 25 000 manifestants en France qui réclament justice pour Sarah Halimi. Les boomers au standard, puisque la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts ou régionale en Ile-de-France, Julien Bayou, a déclenché une campagne de publicité où il met en cause ces boomers qui n'iront pas forcément voter, pense-t-il. La loi, une nouvelle loi anti-terroriste, hommage à Yves Régnier, si vous le souhaitez. Et puis la petite phrase de Emmanuel Macron, je disais tout à l'heure qu'il avait découvert le Pérou à Orléans. 19h, c'est tôt, a-t-il dit sur le couvre-feu. Je lui confirme que 19h, c'est tôt. À tout de suite.
À Paris, c'est le matin, en fait, hein, même.
Ah bah à Paris, effectivement, oui. Selon nous sommes en décalage horaire, comme, selon Anne Hidalgo, c'est très tôt, 19h, on est au café.
C'est le petit déjeuner.
C'est le petit déjeuner, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
Bonjour à Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous pourrez réagir dans quelques minutes à ces questions. Faut-il décaler l'horaire du couvre-feu ? En avez-vous marre d'être chez vous avant 19h ? Emmanuel Macron a évoqué le sujet ce matin dans une école de Melun en Seine-et-Marne avec une élève de CM2.
Ce qui me dérange vraiment le plus à cette pandémie mondiale, c'est que le couvre-feu, c'est un peu énervant.
Ah ouais.
C'est un peu tôt, il fait beau
dehors. Donc. On va essayer de le décaler, promis. On va le décaler un peu. Parce que 19h c'est tôt, je suis d'accord. 19h c'est très tôt.
19h, c'est très tôt, dit le chef de l'État. Propos partagé par Aurélie sur la page Facebook de l'émission avec l'arrivée des beaux jours. Laissez-nous dehors jusqu'à 20h.
Vous vous rendez compte où on en est ? C'est extravagant, quoi. Évidemment qu'il faut le décaler quand même, ce couvre-feu. On ne va pas rester sous couvre-feu toute notre vie. Bah, on en est là en train de demander une heure supplémentaire. Monsieur le bourreau, une heure supplémentaire.
C'est tôt 19h. Et c'est la course tous les soirs, écrit Véronique sur la page Facebook de l'émission. Donc oui, décaler un peu le couvre-feu. Donc oui. Si vous partagez ces avis, 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Sachant qu'on nous explique que dehors, il n'y a pas de contamination, je le répète et le répète encore. Il n'y a pas de contamination en extérieur, nous dit-on. C'est ce que il y a un consensus des médecins sur ce sujet. David est avec nous. Bonjour David.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous revenez évidemment sur le drame de vendredi et l'assassinat de Stéphanie M. Dis assassinat. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'était prémédité, alors que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dans son tweet, a parlé de meurtre. Et comme les mots ont un sens, comme chacun sait, un assassinat, c'est pas un meurtre.
Non, mais bon, c'est encore un politique qui parle pour rien dire, quoi. J'ai envie de dire, moi, je voudrais avoir un petit peu de respect pour les deux enfants qui sont orphelins de la mère. Voilà, je pense aussi au mari de Stéphanie et à toute la famille. Voilà. Encore une fois, la police, les bleus, hein, comme je les appelle, moi, la police, les gendarmes, les pompiers, ont subi encore une perte. Ces gens-là travaillent pour nous défendre. C'est un rempart entre nous, les voyous, et encore une fois, ils s'en prennent plein la tête. J'ai envie de dire plein la tête par les mortiers qui reçoivent tous les jours, les pompiers qui font des interventions pour sauver des vies, qui se font caillasser, qui se font bombarder par des mortiers. En fait, encore une fois, l'État est venu faire son petit manège. Hein. Ils sont venus, ils ont été devant le commissariat, on a vu toute la crème hein, passer. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ces gendarmes, ces policiers sont soutenus par l'État ? Vous savez, quand on voit Dupont, on entend surtout Dupont-Moretti qui dit dans une radio extérieure à la vôtre, j'ai eu l'honneur de défendre Mera. Comment les policiers peuvent avoir encore de l'indulgence ?
Il l'a dit comme ça, il a dit l'honneur, parce que c'est aussi l'honneur d'un avocat. Hein. Ça, c'est encore autre
oui,
chose, ou bien qu'il y ait des avocats.
Oui, encore sur les mots.
Les mots sont importants. C'est un avocat, c'est sa raison d'être, de défendre l'indéfendable.
Ah ben, l'indéfendable, là, c'était complètement indéfendable. Mais bon, c'est comme ça. Comment voulez-vous que ces policiers qui font, et ces gendarmes, et ces pompiers qui font un métier extraordinaire, et n'aient pas un dégoût, en fait. Un dégoût, un mal-être. On va avoir des gens qui vont se suicider parce qu'ils ne sont pas reconnus dans leur métier. On va relâcher des gens au bout de 10 fois, 15 fois, 20 fois. Ils font un boulot qui ne sert pour eux, à mon avis, il ne doit plus servir à grand-chose, puisque de toute façon, on revoit toujours les mêmes énergumènes. Alors, l'origine, j'ai envie de dire, on va parler un petit peu de l'origine. Pourquoi l'État ne va plus dans ces zones de non-droit ? Il y a quelques années, Pascal, il y a eu l'affaire Malik Oussekim, où un jeune, lors d'une arrestation, encore une fois, il se fait arrêter, c'est qu'il y avait certainement des doutes, ou voilà, s'est réfugié dans un endroit et malheureusement est décédé. Après, eh bien, vous savez comment est la France, hein, il y a eu dans les quartiers des jeunes qui ont encore mis les quartiers à feu, j'ai pas envie de dire à sang, mais voilà, à feu, on saccage tout, on pète tout, on n'est pas content. Voilà. Et à partir de là, en fait, les différents gouvernements qui sont passés ont mis le holà, c'est-à-dire plus de répression. De justice, on laisse faire totalement.
C'est un peu caricatural, David, ce que vous dites, forcément, parce qu'il y a quand même de la répression. Mais l'affaire Malik Oussekine, elle est en plein Paris. Hein. Elle est rue Monsieur le Prince, c'est en 1986, et c'est un escadron de voltigeurs, d'ailleurs, qui a été supprimé depuis et qui, effectivement, va tabasser Malik Oussekine. Et c'est une manifestation durant les manifestations étudiantes de 86 et de la loi de Vaquet. De mémoire. Donc c'est je sais pas, ça se passait pas dans une cité ou ça se passait pas en banlieue. Mais en revanche,
là aussi, il y a eu quand même les quartiers qui ont été mis à feu et à sang. À partir de l'affaire. Et à partir de cet état-là.
J'en ai pas souvenir, pour tout vous dire, qu'il y ait eu en 86 des quartiers. Il y en a eu après, bien sûr, hein, mais qu'il y ait un lien de cause à effet entre les deux, je n'en ai pas souvenir, David.
Mais après, voilà, pour reparler aussi.
Mais en revanche, là où ce que ça a changé, c'est la doctrine du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consigne, et on peut la comprendre d'ailleurs, c'est tout sauf un mort. Voilà. Et ça, on peut le comprendre. Et on le voit dans les manifestations avec les Black Blocs, on le voit dans les manifestations avec les Gilets jaunes, et ça peut s'entendre, bien évidemment.
Mais par contre, on peut tuer un policier. Ça, il n'y a pas de souci. On peut l'entendre. Alors, j'ai envie de revenir un petit peu là, parce que je reviens là, voilà. Les militaires, vous savez qu'ils ont ouvert une tribune là, les
recrutés. Oui, bien sûr, on va en parler d'ailleurs de cette tribune. C'est très intéressant parce qu'elle passe sous les radars médiatiques. Personne quasiment en parle.
Oui, mais ça, c'est bien dommage parce que.
Bien sûr que c'est dommage.
C'est une sonnette d'alarme.
Bien sûr.
Qui dit au gouvernement, attention, on va rentrer dans un état où ça sera plus gérable, et quand c'est plus gérable par les gens qui doivent garder la sécurité, après ça va être une guerre civile. C'est dur de dire ça.
Oui, ce qu'ils disent, parce que je l'ai. Figurez-vous qu'on va en parler de cela. Parce que,
il y a quelque chose quand même que j'ai retenu. C'est quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part.
C'est effectivement, alors que, comme le disait le cardinal Mercier, primat de Belgique, quand la prudence est partout, le courage n'est nulle part. Et je continue la lecture. Alors, mesdames, messieurs, assez d'attermoiement, l'heure est grave, le travail est colossal. Et c'est les généraux qui s'adressent au président, aux membres du gouvernement et aux parlementaires. Et la phrase qui a fait polémique, si j'ose dire, c'est « Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. » Et certains veulent voir dans cette phrase une intervention de l'armée, voire un putsch. C'est évidemment pas ce qui est dit. Mais comme personne n'a lu cette tribune, ou en tout cas personne, ou beaucoup feignent de ne pas l'avoir lu pour l'instrumentaliser, la caricaturer ou la dénaturer. C'est très intéressant cette tribune. Et chacun devrait s'interroger pourquoi des généraux en retraite de très haut rang, plus des hauts dignitaires, écrivent effectivement cette tribune et les renvoyer en expliquant que ce sont des factieux, des séditieux, des putschistes ou des fascistes. Évidemment, ça n'a pas de sens, me semble-t-il. En tout cas, vous pouvez intervenir sur cette tribune des généraux. À tout de suite.
Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous évoquons évidemment le drame de Rambouillet. Je vous rappelle que Stéphanie M, adjointe administrative de la police nationale, 49 ans, mère de famille, tombée sous les coups de Jamel G, un Tunisien rentré clandestinement en France en 2009 et régularisé en 2019, grâce d'ailleurs à la circulaire dite Valls, qui avait été votée en 2012. Et c'est important également de savoir que cette circulaire, a priori, n'a pas force de loi. Il s'agit plutôt d'instructions données aux préfectures quant à l'appréciation des demandes de régularisation formées par les étrangers sans papier. Nous sommes avec Hamid. Bonjour Hamid. Vous êtes ancien policier.
Bonjour. Oui, je suis ancien policier. Bonjour monsieur Pro, pardon. Oui, je suis ancien policier.
Je vous en prie.
Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire drôle, mais ce qui devait arriver est arrivé. C'est malheureux de dire ça. Mais qui devait arriver est arrivé. On a tout fait pour en arriver là et on fait tout pour que ça continue.
C'est-à-dire
écoutez, le gouvernement parle beaucoup, mais comment agit-il ?
Mais qu'est-ce qu'il faut faire, Hamid ?
Moi je suis désolé, moi. Là, il faut que maintenant que quelqu'un prenne ses patins, comme on dit vulgairement parlant, et là maintenant, c'est même plus un tour de vis qu'il faut donner, c'est 10 tours de vis. Hein.
Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi ?
Attendez. Déjà, reconstruire des prisons, faire des perpétuités réelles, tout ce qui n'a rien à faire chez nous. Dehors, comme disent certains dirigeants politiques qu'on traite de fascistes, mais moi je suis désolé, il arrive un moment donné, il faut arrêter, il faut mettre une barrière, et là, on ne peut plus continuer comme ça. Parce que alors là, je vais vous dire, là, la guerre civile, là, si on continue comme ça, dans un an, on y est. Hein. Dans un an, on y est. Hein.
En tout cas, d'abord, faut pas la souhaiter et pour qu'il y ait une guerre civile, il faudrait qu'il y ait des camps qui soient très importants de chaque côté. C'est pas le cas. Là, on est sur minorités. C'est-à-dire que l'islamisme en France, c'est une minorité d'individus.
Oui, mais des minorités qui tissent leur toile. Quand on voit ce qui se passe à Trappes, par exemple, ce qui se passe à... c'est en Belgique, Molenbeek, mais je vais vous dire, il y a des quartiers de Marseille, ça ne doit pas être mieux. Hein. Barbès, regardez ce que devient Barbès à Paris. Regardez ce que devient le 9-3. Je connais bien le 9-3, je suis d'origine du 9-3, moi. Je suis de Bondy, d'origine. Je connais très bien cette ville.
Il n'y a pas... C'est pas un repère d'islamisme majoritaire, qu'il puisse y avoir des foyers, on le répète à chaque fois, des personnes radicalisées, ouais. Oui, mais l'immense majorité des Français qui habitent Bondy sont d'abord, et on le répète tout le jour, les victimes de ce radicalisme et de cet islamisme. C'est quand même important de le dire, me semble-t-il.
Ah oui, alors justement, moi ce que j'aimerais voir, moi je m'appelle Hamid Saïdi, je suis d'origine kabyle de par mon père, mais j'ai que le nom, hein. Vous savez, moi j'ai aucune religion, j'ai rien du tout. Mais justement, les musulmans qui sont parfaitement intégrés en France, comme on dit, ils devraient aller dans la rue pour dénoncer ça comme...
Mais ils le font parfois.
Moi, je vois pas beaucoup de manifestants, de manifestations de ces gens-là qui respectent nos lois, us, mœurs, traditions et coutumes, aller dans les rues et manifester leur mécontentement et face à ça et dire au gouvernement agissez.
Mais parce que Hamid, et c'est intéressant votre témoignage, parce que vous appartenez à une autre génération. Vous avez 65 ans, je peux le dire. Et effectivement, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que la troisième ou quatrième génération ne vit pas son rapport à la France comme vous le vivez, vous, et c'est ça qui nous interpelle toujours.
Mais pourquoi on en est arrivé là ? Parce que dès 1900, ça a commencé un peu avec Giscard, et dès 1981, alors là, il était interdit d'interdire. On voit, on en est arrivé aujourd'hui, hein. Excusez-moi, hein, mais enfin, même regardez maintenant, dès que vous parlez de quelque chose, de durcir les lois et tout, vous avez toute une partie des politiques, principalement de gauche, qui sont vent debout.
Au-delà de ça, vous avez un attachement à l'histoire, à la culture, aux mœurs françaises que parfois, et il faut faire attention aux généralités, certains ne se sentent pas concernés, je vais le dire comme ça, vous voyez. Ils ne se sentent pas concernés par cette histoire et par ces valeurs communes. L'explication, elle est très difficile à savoir, à établir.
Mais attendez, quand on est dans un pays comme la France, qui fut, je dis bien qui fut, la vitrine du monde, et qui est en train de devenir la lanterne rouge du monde sur certaines choses, on cherche à glorifier ce qu'a été la France. Tout n'a pas été parfait. De toute façon, un régime parfait, j'en connais pas, moi. Mais il faut quand même se rappeler que la France, on est le pays des Lumières et tout. Excusez-moi, quand on a la chance de vivre dans un pays comme ça...
Bah vous rejoignez, c'est ça qui est intéressant, la tribune des généraux dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui déplore un délitement et qui écrit ceci, délitement qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Aujourd'hui, certains parlent de racialisme, d'indigénisme et de théorie décoloniale, mais à travers ces termes, c'est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques. Ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture, et veulent le voir se dissoudre en lui arrachant son passé et son histoire. Ainsi s'en prennent-ils par le biais de statues à d'anciennes gloires militaires et civiles, en analysant des propos vieux de plusieurs siècles. Voilà ce qui est écrit dans cette tribune. Je ne sais pas si vous souscrivez ou pas.
Si, tout à fait. Voilà, oui, c'est sûr. Et moi, je peux même vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'étais encore en fonction. On avait une collègue qui était ADS à l'époque et qui maintenant, je crois, est brigadier de police. Hein. Elle était d'origine centrafricaine. Et quand elle était ADS, qu'elle est arrivée dans un commissariat, qu'elle a vu des gardés à vue d'origine d'Afrique, des jeunes d'origine africaine, qui nous insultaient, qui crachaient partout, mais qui nous insultaient, je ne vous dis même pas les mots, hein. Vous devez vous en douter lesquels. En les regardant, le fond de l'œil brillant, elle a dit « Vous ne savez pas la chance que vous êtes dans un pays comme la France. » Ça veut tout dire. Ça veut tout dire.
Ben merci Hamid de ce témoignage. Merci.
Et juste une dernière chose, dire au revoir monsieur le commissaire à Yves Régnier qui nous a malheureusement quitté.
Vous avez raison Yves Régnier, effectivement. Vous pourrez alors il a fait un malaise cardiaque, il était jeune d'ailleurs.
Jeune, 78 ans.
78 ans c'est un personnage de notre enfance parce qu'il était dans un film quand j'étais enfant qui s'appelait Les Globetrotters. Je sais pas si vous vous souvenez de cela.
Moi, dans les années 60, celui-là qui est né noir et blanc, j'ai connu ça. Avec Edouard Meix.
Exactement. Ouais. Et puis après, il y a eu Commissaire Moulin pendant plus de 25 ans. Et d'abord, il était très, très, très beau hein, quand il était jeune et très sympa. Et vraiment, c'est une figure populaire que les gens adoraient. Vous pourrez lui rendre hommage. Merci, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier. C'est la question du jour et vous nous en parlez depuis le début de l'émission. Faut-il une nouvelle loi antiterroriste ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, présente mercredi en Conseil des ministres un projet de loi. Une vingtaine ont déjà été promulguées depuis 1986. Sébastien Pietrasanta, l'ancien rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, était l'invité de RTL Midi.
On a le sentiment d'avoir une loi par an en matière de terrorisme ces dernières années. C'est vrai qu'on peut s'interroger non pas sur leur efficacité, mais sur la fuite en avant en matière de lutte contre le terrorisme. Pour le coup, là, une loi un peu fourre-tout.
Après l'attaque terroriste de Rambouillet, le meurtre de Stéphanie, 49 ans vendredi, comment mieux protéger nos forces de l'ordre? Comment empêcher ces passages à l'acte? Une nouvelle loi peut-elle vraiment être efficace? Eh bien, pour Micheline, sur nos réseaux sociaux, il faudrait déjà bien appliquer celles qui existent, expulser ceux qui doivent l'être et stopper cette immigration de masse. Encore du papier, des débats, soupire Thierry, on veut des actes concrets. Ça fait des années que l'on entend les mêmes discours et que tous les politiques se réveillent, demande Didier sur nos réseaux sociaux.
Et Stéphane est avec nous. Bonjour Stéphane, toujours sur le drame de Rambouillet. Bonjour à vous.
La chose que je peux dire, c'est condoléances à toutes les forces de l'ordre. Parce que c'est vraiment terrible cette situation. Elle ne peut plus continuer cette situation. Moi, je suis d'une strictesse, mais alors, terrible. C'est terrible d'entendre ce genre de choses. Vous imaginez, monsieur Pascal, qu'aujourd'hui, on ouvre le journal. Un gendarme a été agressé. Un gardien a été agressé. Il y a ci, il y a ça. Il y a des gens qui meurent pour un contrôle de papier. Mais on est où? On est sur quelle planète?
Et qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des idées de solutions ou même des idées politiques pour changer la donne?
Alors vous savez, la problématique en France, c'est que quand vous êtes patriote, quand vous avez une certaine honneur, une fidélité envers votre pays, parce qu'on a cette chance de vivre en France, eh ben on vous dit, vous êtes facho. Voilà. Alors déjà, ça, il faudrait peut-être arrêter ça. Il faut peut-être qu'en France, on retrouve personnellement le propre honneur. Vous voyez, moi, j'ai été éduqué dans la discipline. J'ai été militaire de carrière.
Vous êtes chauffeur routier aujourd'hui, c'est ça?
Affirmatif, monsieur. Oui, tout à fait, monsieur Pascal.
Vous êtes resté combien de temps dans l'armée?
Pratiquement 17 ans.
17 ans, alors ça c'est intéressant comme parcours. Donc au bout de 17 ans, vous quittez l'armée, vous avez une retraite déjà de l'armée dans ces cas-là?
Une pension, oui monsieur.
Une pension, et qui vous permet, que vous touchez, hein, tout en étant chauffeur routier aujourd'hui.
Tout Tout à fait.
Donc c'est un complément de, c'est un complément de, oui,
de salaire,
voilà. Vous avez raison, je cherchais le mot.
Que moi, quand
mais qui est justifié,
demi,
hein, bien sûr, hein, puisque vous avez donné 17 ans à l'armée française.
Moi, je suis rentré, vous savez, je suis rentré dans l'armée grâce à un gendarme. Je vais vous expliquer. J'avais 17 ans et demi, je me prenais pour un cador, un petit branleur, oui. Et pas d'autres mots, hein, on va dire les mots tels qu'ils sont. Alors, je vais m'exprimer un peu vulgairement, et je vais me le permettre, gros comme une éclat de pite. Un jour, il y avait un bal, et j'ai mis une baffe à un gendarme, qui était tout seul dans le bal. Alors, lui, il m'en a retourné une à... où j'ai déchiré mon slip, comme on dit vulgairement. Et il m'a dit, gamin, t'es en train de partir en sucette. Et avant, dans les petits villages, il y avait des petites gendarmeries. Il a été voir mon père, il lui a dit, il faut qu'il parte. Et grâce à cet homme, je me suis engagé. J'ai fait une belle carrière. Cet homme, aujourd'hui, j'espère qu'il m'écoute, je lui dis merci. Merci à ce gendarme de m'avoir mis déjà cette baffe dans la tronche. Merci. Merci d'avoir fait en sorte que je m'en sorte dans ma vie. Et il n'y a pas eu des bobos pour arrêter ça. Et merci à eux. Vous voyez ce que je veux dire ?
J'entends ce que vous dites de votre témoignage. Ça nous éloigne un peu, forcément, de Rambouillet.
Hein, et alors, l'histoire même... de Rambouillet, moi, je veux dire ce qu'il y a à faire. Déjà, il faudrait un petit peu que les bobos malfaisants qui crient des grands coups de dolto, de machin, truc de freux de mes couilles.
Attendez, Stéphane, faites attention quand même. Là, je dis souvent ça, mais le modérateur que je suis ne peut pas laisser passer à l'antenne ce que vous venez de dire. Donc, je le retire pour vous, bien évidemment. Vous avez parlé de dolto, vous avez parlé de Freud, mais toutes ces approches-là sont parfois intéressantes pour essayer de comprendre l'âme humaine, même si ici, elles ne sont pas, comment dire, elles ne sont pas appropriées. C'est tout ce que je veux dire. Oui. Mais il ne s'agit pas non plus de détruire l'intellectuel. Ou les recherches psychologiques ou psychiatriques qui puissent exister.
Elles étaient en place dans un temps et un mouvement et un lieu défini. Aujourd'hui, la violence, elle est telle qu'à un moment donné, le seul mot qui est interdit à l'heure d'aujourd'hui, vous savez, dans le système, c'est le mot discipline. C'est le mot dureté. Moi, je pense que la jeunesse défaillante qu'on trouve dans les banlieues et autres, pas faire comme j'ai entendu l'autre fois à la radio, leur donner de l'argent pour essayer de les faire taire. Non. Si on les attrape, on fait en sorte que dans les centres fermés soient durs, que nos prisons soient dures, que les gens n'aient plus envie d'y retourner. Vous voyez, tout le monde prend en exemple la Norvège, la Suède, la Suisse et autres. Allez en prison en Suisse. Ça m'étonnerait que vous ayez la télévision et vos clés dans la poche, monsieur.
Bon, merci en tout cas Stéphane pour ce témoignage, si j'ose dire, et puis ces avis que vous venez de donner, c'est vrai qu'ils étaient assez radicaux pour le coup. Nous allons poursuivre évidemment en parlant de Rambouillet, il y a d'autres sujets, je l'ai dit, il y a cette tribune des généraux, et puis il y a cette phrase d'Emmanuel Macron, 19h c'est tôt, je ne sais pas ce qu'en pense Greg Caranoni, 19h.
Ah bah je vous le disais, moi je trouve que c'est à Paris, c'est le matin, hein, 19h.
19h c'est tôt, et puis il y a également les boomers, alors on pourrait peut-être, pour égayer un peu cette émission qui est lourde forcément, se faire une petite playlist des chansons de vieux.
Alors, égayer, c'est peut-être un bien grand mot, parce que lorsque je recherche des chansons de vieux, c'est pas toujours très gai, mais...
Alors, on pourrait Jacques Brel, bien sûr, les vieux ne parlent pas. Et puis, moi, je me souvenais d'une petite chanson tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez trouvée, de Michel Sardou. Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille. Est-ce que vous connaissez cette chanson ?
Elle a des cerises sur son chapeau, la vieille. Elle se fait croire que c'est l'été.
Donc c'est un boomer, c'est une des chansons des années. Vous connaissiez pas cette chanson ?
Je la connaissais pas, non.
Il paraît que la dame a la faux.
C'est vrai que ça a égayé l'émission. Ça, hein.
Je suis d'accord avec vous, mais les boomers, on parlera des boomers. Et si vous êtes boomer, appelez-nous. A tout de suite.
Ça aime son fauteuil et son lit.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous continuons évidemment sur ce sujet qui vous fait réagir fortement d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en revanche, depuis le début de l'émission, j'ai envie de dire c'est la même couleur quand même, hein, d'émission, de prise de position. Donc des gens qui trouvent que l'État est trop laxiste, qu'il n'y a pas assez... de discipline, pourquoi pas mise en place, pourquoi pas assez de lois également restrictives. Francis est avec nous. Bonjour Francis, et j'ai le sentiment que vous allez être également sur cette ligne éditoriale.
Oui, bonjour Pascal. Oui, je vais l'être également. Mais je suis assez satisfait quand même que ce soit la ligne principale de cette émission, parce que si c'était l'inverse, je vous
avouerais... C'est peut-être que les gens appellent uniquement là-dessus. Moi, j'aimerais entendre, pourquoi pas, des voix différentes ou des sons de cloche différents. Mais manifestement, depuis 13 heures, on n'a qu'un seul axe, ce que je peux comprendre
c'est-à-dire
aussi.
C'est-à-dire qu'on est face à des réalités qui crèvent les yeux de tous, ou du plus grand nombre aujourd'hui, et puis que pour autant, rien n'est fait justement pour aller dans le bon sens.
Mais vous ne trouvez pas, quand vous dites rien n'est fait, vous ne trouvez pas quand même que dans l'espace public, on dit des choses aujourd'hui qu'on ne disait pas il y a ne serait-ce que 5 ans, et peut-être même 3 ans?
Si, mais ça c'est peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux aussi libèrent certaines paroles qu'on n'aurait peut-être pas entendues, si vous voulez, dans des journaux classiques à 20h le soir, il y a 10 ans, devant 3 chaînes de télévision.
Et peut-être aussi que la réalité est là et qu'elle nous saute au visage, et que le déni, peut-être qui a été souvent un axe de communication, ce déni s'est étiolé avec le temps.
Oui, et je crois que c'est encore ce déni aujourd'hui qui exacerbe le plus de monde, quoi. Parce que on en vient à nier l'évidence sous couvert d'opinions ou de bonnes pensées. On en nie tout simplement.
Mais c'est quoi l'évidence, Francis?
L'évidence, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se produit en France par certaines catégories, soit de population ou de provenance, saute aux yeux de tous. Que pendant des années, il fallait surtout pas dire les choses comme elles étaient, parce qu'évidemment, encore une fois de plus, on aurait été stigmatisé, soit comme l'ont dit d'autres auditeurs, comme facho, comme nazi, comme choses comme ça. Puis qu'aujourd'hui, finalement, comme ça touche le plus grand nombre de personnes de plus en plus, on s'aperçoit que ça va bien au-delà. Et que c'est juste une réalité et qu'il faut juste prendre les choses en compte, ce qu'on ne fait toujours pas. On nie l'évidence.
C'est intéressant, par exemple, les réactions, parce que en politique, il y a eu deux types de réactions. Il y a une partie de la droite qui a établi dimanche un lien direct entre le terrorisme et l'immigration. Par exemple, c'est Valérie Pécresse qui a dit qu'il faut cesser de nier le lien entre terrorisme et immigration. Il y a un lien, notamment... Alors je vais vous le dire, parce que par exemple la candidate PS à la présidence de la région Île-de-France, Audrey Pulvar, a écarté tout lien entre terrorisme et immigration. Beaucoup de personnes immigrent et s'installent et font la richesse de la France, et ce ne sont pas des terroristes. Elle a d'ailleurs raison, cette phrase est juste.
Ah ben ça a été vrai pendant longtemps.
Non, mais ce qu'elle dit est objectivement russe, objectivement juste.
Oui. Bon, ça, ce sont des belles paroles, quoi. Ce sont des belles paroles. Moi, je ne m'appelle pas Dupont. Je suis né en France, je ne m'appelle pas Dupont pour autant, et mon pays, il s'appelle la France, ses couleurs, je les connais par cœur, j'aime mon pays et je le défendrai toujours. Et pourtant, je vous le répète, je ne m'appelle pas Dupont, et il y en a des quantités des gens comme moi.
Mais ça veut dire et quoi, vous vous appelez comment?
J'ai un nom d'origine russe, moi.
Et vous êtes en France depuis, c'est votre...
Oui, j'y suis né. Mon grand-père a combattu en 14-18 et a été, pour tout vous dire, naturalisé en 1931, vous voyez.
Ce qu'on appelait les Russes blancs, peut-être, qui avaient immigré après la Révolution de 1917. Et on en trouvait beaucoup à Paris, ce qu'on appelait les Russes blancs. Et vous savez quelle profession faisaient souvent ces Russes blancs dans Paris?
Je vous écoute.
Ils étaient souvent chauffeurs de taxi.
D'accord. Bon, voilà. En attendant, mes origines étant ce qu'elles sont, moi, je me suis toujours senti français et je n'ai qu'une origine et je n'ai qu'un pays, c'est la France. J'ai pas besoin d'aller me chercher des origines ou des provenances d'ailleurs. Je sais où je suis, je sais où je suis né, je sais ce que j'aime. Et en plus, je pense que je suis dans un des meilleurs pays au monde.
C'est le modèle de l'assimilation que vous défendez.
Voilà, tout à fait, parce que ça suffit, les provenances, et puis les origines, et puis ceci, puis cela. Voilà, notre pays, il a été fait de beaucoup de Français, et puis d'autres gens qui sont venus pour justement nous enrichir, et ils nous ont enrichis, effectivement. Mais ils sont tous venus ici pour s'intégrer, pour participer à la richesse, et puis au développement de ce pays, parce que ce pays, il représentait quelque chose, et en plus... Il représentait quelque chose qui était bien meilleur et auquel il voulait justement, bref, je me répète un peu, mais participer. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plus comme ça du tout, c'est fini ça. Tout ça, c'est fini. La richesse culturelle, faut s'arrêter. Je sais pas trop le sujet que je veux aborder, je veux juste, si vous me permettez, on n'a plus de ligne de conduite. dans ce pays. On est d'ailleurs plus un peuple, hein, puisqu'on a quand même tué notre identité profonde, je le pense, et encore une fois, d'où qu'on vienne. On a tué cette identité, on n'a plus de volonté commune, on n'a plus de ligne de conduite. Bon, ça fait déjà longtemps. Encore une fois, malheureusement, je suis désolé pour cette collègue, évidemment que je compatis avec toute sa famille. Elle ne va pas être la dernière. Elle ne va pas être la dernière et on a encore des émissions sur ce sujet. Et on a beau dire ce qu'on veut, on a beau entendre des bonnes paroles de partout, rien n'est fait, tout va dans le... On subit. À mon sens, Pascal. On est comme en 40, vous savez, un grand pays qui a toutes les qualités pour être dominant et gagnant, mais qui finalement reste sur ce reculoir, se fait doucement avaler. Et puis, quand les choses seront définitivement terminées, on lèvera le petit poing en disant on veut résister.
Non, mais là où vous avez raison, c'est que quand vous dites on ne fait plus peuple, et même sur des sujets comme cela, on n'arrive pas à avoir une forme de concorde nationale. Et le tweet de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, vendredi, était très intéressant. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas n'importe qui. Il est arrivé troisième à la dernière présidentielle. Il a fait quasiment plus de 20% des voix. Et qu'a-t-il écrit ? Il a écrit « Révoltant meurtre à Rambouillet ». Condoléances à la famille et aux proches de la victime, devoir de sang-froid, exigence de justice. À aucun moment il parle de terrorisme, il ne parle pas d'islamisme, il ne parle pas non plus d'assassinat, il préfère le mot meurtre. Et c'est en cela que même sur un sujet comme celui-là, on n'arrive pas à tous se retrouver et à faire une pause d'une certaine manière et à partager ensemble le même constat. Et c'est ça qui me frappe
sûr,
dans cette...
C'est sûr, Pascal, enfin, en prenant des exemples comme Jean-Luc Mélenchon, il est bien évident qu'évidemment, on n'est vraiment pas prêt de se retrouver. Quoi. C'est sûr qu'en écartant l'islamisme, c'est sûr qu'en écartant l'immigration, c'est sûr qu'en écartant, si vous voulez, les valeurs nationales, et puis en occultant le fait qu'on s'en prend à notre propre identité, notre propre civilisation et notre propre pays, c'est sûr, franchement, on ne va pas s'entendre. Alors là, vous me donnez une bonne occasion. C'est sûr qu'avec des commentaires de personnes, de personne, pour être gentil, pareil, là, on n'est pas prêt de se retrouver. Mais moi, je pense quand même que les gens, les Français, encore une fois, je précise, pour ne pas être stigmatisé d'où qu'ils viennent, mais M. Mélenchon, c'est celui-là aussi qui voulait désarmer la police et puis qui voulait les voir sans armes dans les rues.
Non, mais vous avez raison, parce que ce qui est intéressant...
C'est vraiment le dernier exemple à donner, enfin, à mon sens. Hein.
Mais ce qui est intéressant dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, là encore, c'est que non seulement il ne cite pas le mot de terrorisme, ni islamisme, ni même la police. Police, qu'il qualifiait parfois d'ailleurs de milice. Mais ça, c'est très intéressant. Donc même dans une circonstance aussi dramatique, il y a difficulté de faire concorde nationale. Merci beaucoup, Francis.
Écoutez, je voulais vous en dire plus, mais j'espère qu'on se retrouvera. La chance de pouvoir...
Mais pourquoi pas Mais vous savez, la parole tourne, évidemment.
Merci de m'avoir écouté en attendant.
Non, vraiment, merci beaucoup. On aura peut-être un dernier auditeur Abdelatif sur ce sujet. Et puis après, on parlera de cette information importante qu'a donnée le président de la République. 19h, c'est tôt. Je rappelle que pour le couvre-feu. Donc, alors on va faire l'exégèse. Si 19h, c'est tôt, 22h, c'est peut-être tard. Et 20h, c'est un peu comme 19h. Donc, ça pourrait être peut-être 21h, le couvre-feu. Je réfléchis à haute voix. Voyez-vous.
On entend très bien.
Hein, je me demande à quelle sauce on va être mangé. Et là, on est en train de se dire, ah super, on va avoir une heure de plus, etc. Mon Dieu. Et je vous assure, les terrasses ouvertes à Paris, c'est pas demain. Hein. Je vous le dis, parce que comme le virus circule, je serais étonné que les terrasses des restaurants rouvrent à la mi-mai. Hein. Je vous le dis, et j'avais dit Paris ma chemise, vous vous souvenez ?
Ah ben on s'en souvient parfaitement, oui. On l'avait dit même.
Je crois que j'ai gagné ma chemise. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Nous attendons dans quelques minutes les boomers au standard.
Les vieux parlent plus. Ou alors.
Oh non, mais là, vous allez nous faire des joyeux, amis, là. C'est plus les boomers, ça, ils sont en fin de vie, Jacques Brel.
Une série de visuels a été publiée sur les réseaux sociaux de la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts au régional en Ile-de-France, Julien Bayou. Objectif, inciter les propres sympathisants du parti à se rendre aux urnes. Mais sur l'une des images retirées depuis, figuraient des personnes âgées souriantes et le slogan « Les boomers, eux, ont prévu d'aller voter ». Julien Bayou a reconnu une erreur, c'était maladroit et blessant. Vous êtes boomer, vous avez été choqué par ce visuel, 32-10. Et vous pourrez rendre hommage à Yves Régnier qui nous a quittés ce week-end à l'âge de 78 ans. Inoubliable interprète du commissaire Moulin pendant plus de 25 ans. Et c'est en 1965 qu'il rencontre le succès dans la mini-série Belphégor.
Vous n'avez pas connu Belphégor, vous ?
Non.
C'est que
j'ai vu
faisait...
quelques images.
C'est que ça faisait peur. Hein. Il n'y avait qu'une télé. La France entière regardait ça. C'était Juliette Gréco qui jouait Belphégor, fantôme du Louvre. Mais on était terrorisés quand on était enfant.
Est-ce que ce souvenir n'est pas plus terrorisant que Belphégor lui-même ?
Je ne comprends pas votre question.
C'est de la philo, là.
Mais vous savez, ça vous foutait une trouille. Il n'y avait qu'une télé. Donc le lendemain, la France entière avait vu Belphégor. Nous sommes avec Abdelatif. Bonjour Abdelatif.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Et vous serez le dernier auditeur sur ce drame de Rambouillet. Donc on va peut-être synthétiser et conclure avec vous.
Rapidement, d'abord mes condoléances les plus sincères à la famille de la victime, victime d'un acte odieux. Et depuis tout à l'heure que je vous écoute, ben moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que finalement je me dis que les terroristes ont finalement gagné. Ils sont en train de gagner. Ils ne sont pas en train de gagner militairement ou autre, ils sont en train de gagner parce qu'ils sont en train de mettre la discorde dans notre société. Sur des sujets aussi importants, nous ne sommes même plus capables de s'entendre. Nous sommes l'invectif, on se montre du doigt, et je l'entends depuis tout à l'heure à travers les interventions diverses. J'ai l'impression qu'on montre du doigt une catégorie de citoyens. Il y a 5 millions de musulmans en France, mais ils ne sont pas tous des terroristes. Je crois que nous devrons d'abord, dans un premier temps, faire une pause, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et réfléchir ensemble comment contre-attaquer ces terroristes qui sont invisibles. C'est le solitaire qui vient, on ne sait pas d'où ils viennent.
Ce n'est pas on sait d'où ils viennent, pardonnez-moi.
Non, bah moi si, je ne sais pas.
Ils entrent en France de manière illégale et ils sont parfois régularisés.
Mais Pascal, je suis d'accord avec vous sur les deux derniers cas, mais à la date où on parle, nous avons encore des Français qui sont prisonniers en Irak parce qu'ils sont, ils font partie de l'État islamique. Nous avons aussi des Français qui ont posé des bombes en France. Nous avons des Français qui ont tué des autres Français. Ce n'est pas une question. C'est une question de on a un ennemi. Et cet ennemi-là, il est en train de gagner parce que nous entendons même pas. Depuis tout à l'heure, les interventions, c'est pour dire que le gouvernement ne fait rien. Mais ceux qui disent que le gouvernement ne fait rien, ils ne proposent rien non plus. Est-ce que vous pensez qu'un président de la République, je ne le défends pas, mais je prends celui d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est content de cette situation ? Quand on dit qu'il ne fait rien, c'est pour moi, c'est comme si on dit qu'il est complice. Il n'est pas complice.
Non mais Abdelatif, personne dit que les raisons sont récentes.
Part.
D'abord, là où je ne vous rejoins pas, c'est que depuis 13 heures, je trouvais qu'il y avait effectivement une ligne éditoriale des auditeurs. Qui était clair, ça je suis d'accord avec vous, mais avec retenue, et il n'y avait pas d'amalgame pour le coup. Personne.
Il y a un peu d'amalgame.
Moi, je n'ai pas eu ce sentiment. Personne ne dit.
J'ai eu le sentiment du dernier intervenant qui dit que notre civilisation est en péril, et on sait de quoi il parle. Il n'y a pas de civilisation en péril.
À vous trouver ?
Je ne pense pas.
Bah écoutez, C'est ce que, en tout cas, certains peuvent imaginer, hein, vous savez.
Mais justement, faites peur aux gens.
On ne fait pas peur, pardonnez-moi.
Mais bien sûr, on fait peur aux gens.
On est en train
de leur dire que vous avez un ennemi, et cet ennemi-là, il a une religion qui est l'islam. Ce n'est pas vrai. Nous sommes 5 millions de musulmans, nous ne sommes pas 5 millions de terroristes.
Mais personne ne dit ça, monsieur Abdelatif. Tous les musulmans sont terroristes. On dit que tous les terroristes en France sont musulmans. Souvent, dans la majeure partie des cas, c'est, tout ce terrorisme ou ce terrorisme-là est lié à l'islam. Donc c'est l'islamisme radical.
Il est lié à l'islam, mais
personne ne dit que tous les musulmans sont terroristes.
Mais il vaut mieux le dire, comme ça on le rappelle.
Mais en revanche, on constate que tous les attentats terroristes sont liés, effectivement, à l'islam radical.
Si quelqu'un vous dit l'inverse, il a tort. Vous avez raison.
Ben oui,
les attentats sont liés à l'islam radical.
Ben oui.
Maintenant, les gouvernements, que c'est celui-là, que c'est celui d'avant, ils font ce qu'ils peuvent. Je ne vais pas dire qu'ils ne font rien.
Oui, mais il y a un moment, vous conviendrez, Abdelatif, que moi, ça ne me convient pas qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, comme vous dire. Il y a peut-être des choses qu'il faut faire. Aujourd'hui, je parlais tout à l'heure le contrôle des frontières, de ne pas faire rentrer sur le sol français des gens qui n'ont rien à y faire et qui, dans les derniers attentats, et c'est ce que disait Bruno Le Maire d'ailleurs ce matin, c'est pas moi qui le dis,
j'ai écouté, qui dit
qu'effectivement, c'est lié directement à l'immigration. C'est un fait. C'est ce que je vous dis là ne devrait même pas poser polémique puisque c'est factuel. Donc, il faut sans doute faire attention au contrôle de nos frontières.
Vous l'avez dit tout à l'heure, faisons une pause.
Mais c'est quoi faire une pause? C'est ça que je ne comprends pas. Bah, le concept de la pause, c'est quoi? On ne fait rien pendant un moment?
Non, ce n'est pas ça. Faisons une pause, c'est-à-dire faisons une réflexion. Une réflexion.
Mais ça fait 40 ans qu'on réfléchit, Abdelatif. Ça fait 40 ans qu'on réfléchit. Peut-être qu'il y a un moment, il faut changer certaines choses. Peut-être qu'il faut revoir notre éducation nationale. Peut-être qu'il faut réapprendre à ceux qui sont nés sur le sol de France notre histoire, nos héros nationaux. Peut-être qu'il faut leur apprendre à ne pas détester notre histoire. Peut-être qu'il ne faut pas prendre tout le temps des lunettes de 2021 pour juger Louis XIV. Pour juger Napoléon, notre histoire de France, peut-être.
On ne peut pas juger la France d'aujourd'hui à travers son histoire. C'est
peut-être que Napoléon n'est pas obligé de le voir uniquement à l'aune de la disposition sur l'esclavage qu'il a pris.
Mais pour finir, peut-être. Pascal, moi ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression que ces terroristes-là, ils ont gagné finalement, parce que notre manière de vivre en France... qui leur déplaît énormément.
Ben ça c'est possible. Ben c'est possible. Abdelatif.
Ben
c'est possible Abdelatif que vous ayez raison sur ce point. Il est possible que vous ayez raison sur ce point. En tout cas, je vois chez vous l'homme de bonne volonté. Et ça c'est intéressant.
Ben, je le fais tous les jours.
Ben bien sûr.
Tous les jours pour ça.
Mais
tous
vous avez parfaitement raison. Vous êtes commercial, hein, c'est ça?
Je suis commercial et je rencontre beaucoup de gens. Et ma mission, c'est justement d'expliquer de manière à ce que les gens puissent comprendre à un moment donné. Je ne fais pas que vendre, je parle, j'explique.
Et vous avez des grands-enfants, j'imagine?
Oui, j'ai des enfants, des grands-enfants qui ont fait de très très belles études, je suis ma fierté, et pourtant je ne suis pas français, comme on dit, de sang.
Si, vous êtes français de sang. Vous êtes,
Pascal, entre nous. Jusqu'à maintenant, quand on parle des Français ici d'immigration, on rajoute toujours cette issue d'immigration. Mais... Au bout de la quatrième génération, on le rajoute.
Mais...
Nos enfants, ils en ont marre. Ils veulent dire.
Eh ben, ils ont raison là-dessus. Ils ont raison là-dessus. Mais on fait une pause parce que Olivier Bois est là et on continuera ce petit dialogue qui est passionnant. Olivier Bois pour le flash de 14h.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Olivier Bois.
Emmanuel Macron donne des pistes ce matin en déplacement à Melun pour la rentrée scolaire. Il a évoqué de manière informelle les réouvertures de restaurants en plusieurs étapes entre début mai et fin juin. Il dit assez clairement qu'il y aura des différences entre les départements en fonction de la circulation de l'épidémie. Autre piste évoquée par le président, décaler le couvre-feu. Pour lui, 19h, c'est un peu tôt. Sur la rentrée scolaire, donc 6,5 millions d'élèves de la maternelle au primaire ont repris dans des conditions plus strictes. Désormais, au premier cas de Covid détecté, toute la classe sera fermée. Le contexte est toujours très tendu en France sur l'épidémie, avec toujours près de 6000 patients soignés en réanimation. Le parquet de Strasbourg requiert le renvoi de Jean-Marc Reiser devant la cour d'assises pour assassinat. Les magistrats du parquet considèrent qu'il a prémédité le meurtre de la jeune étudiante Sophie Le Tan en septembre 2018 en lui tendant un piège. Et puis un hommage sera rendu tout à l'heure à 17h30 devant l'hôtel de ville de Rambouillet après le meurtre par un terroriste d'une fonctionnaire de police. Le terroriste a été abattu. Il s'était radicalisé. Il présentait également des troubles psychiatriques. Le quintet à Chantilly, l'arrivée provisoire à l'instant. 6, 9, 2, 8 et 15. Et puis la météo demain matin, ce sera du soleil au nord sur la ligne La Rochelle-Besançon. Ce sera un peu plus nuageux dans le sud avec quelques pluies autour de la Méditerranée. Et des températures demain matin entre 7 degrés à Lille jusqu'à 15 degrés à Marseille.
Pascal Pro, Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Merci Olivier Bouy. On va terminer avec Abdelatif. Je rappelle que depuis les attentats commis par Mohamed Merah le 11 mars 2012 et aujourd'hui, on recense 57 attentats islamistes en France ayant causé la mort de 296 personnes, dont 17 policiers, gendarmes et militaires. Et les plus meurtriers ont visé les jeunes et les familles lors d'événements festifs. 129 morts au Bataclan, 86 morts à Nice le 14 juillet 2016, 5 à Strasbourg sur le marché de Noël en décembre 2018. Abdelatif, c'est important de terminer avec vous vraiment parce que vous disiez que vous-même essayez d'être au contact, je ne sais pas quelle forme ça prend d'ailleurs, d'échanger avec les uns et les autres.
Par les réseaux sociaux, par les gens que je connais, il faut parler. Ce que je reproche aux musulmans de France, pas dans la majorité, mais c'est qu'on est très silencieux quand il y a des attentats de ce genre. Alors je ne sais pas si c'est de la pudeur, hein, ou c'est certainement de la pudeur, parce qu'il y a un moment donné où on se sent un peu insulté quand tous les jours, il y a quelqu'un qui prétend être de ma religion et qui commet des actes odieux de cette nature. Ce jeune de 36 ans, on ne sait pas quel âge il a, qui a tué cet fonctionnaire, il le fait le jour saint chez les musulmans, il le fait pendant le ramadan, qui est un symbole de paix. Il y a 3 mois chez les musulmans, même quand ils sont en guerre, ils s'arrêtent. Même en cas de guerre, on arrête. C'est déjà odieux en dehors du ramadan, mais pendant le ramadan, je me dis que c'est pas un musulman pour moi. C'est pour nous, et c'est ça le problème, c'est qu'on essaye, nous sommes très nombreux à essayer d'expliquer. Il ne faut pas qu'on laisse le champ libre à des gens qui nous montrent du doigt. Il faut qu'on soit là pour expliquer, montrer tout ce que les gens ne comprennent pas, il leur fait peur. Et notre mission, nous, et je le dis aux jeunes musulmans, notre mission, si on veut vivre dans ce pays, dans la paix, et si on veut vivre parce qu'on aime ce pays, parce qu'on crie quand on regarde une équipe de foot jouer, quand on est amoureux de ce pays parce que c'est notre pays, nos enfants n'en ont pas un autre. Contrairement à ce qu'on dit, la binationalité, c'est juste administratif. Mais nos enfants, leur pays, c'est la France, pas ailleurs. Ils ne sont pas nés ni à Marrakech, ni à Rabat, ni ailleurs. Ils sont nés ici. Ils ont envie qu'on les considère ainsi. Et c'est pour cela que je les appelle à leur dire, parlez. Quand il y a des problèmes de ce genre, essayez d'utiliser les réseaux sociaux pour expliquer que vous dénoncez que ça ne correspond pas à ce que nous, on a été, à notre religion. Cette religion qui est très belle quand on la connaît, mais bien sûr quand on la transforme telle que le font, je ne suis pas des islamistes ni salafistes parce que ce n'est pas le terme, c'est voyou, tout simplement. Notre devoir à nous, c'est de le dire.
Merci pour ces paroles pleines de sagesse, pleines d'émotion également et pleines d'intelligence. On ne peut que souscrire à tout ce que vous venez de dire, Abdelatif. Il est 14h05, on va marquer une pause et on va parler de cette phrase étonnante du président de la République. 19h, c'est tôt. Le président de la République a découvert le Pérou à Orléans. 19h, le couvre-feu, c'est drôlement tôt. Mais il se fiche de nous, le président, il se moque. Alors que nous sommes enfermés depuis tant de temps et on ne peut pas aller au-delà de 19h, jusqu'à quand aura-t-on le droit? Vous savez, c'est comme quand on était enfant finalement. T'as la permission de quelle heure? Même quand j'étais enfant, moi j'avais le droit à plus de 19h. Hein.
Quelle chance!
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
19h, c'est tôt, a dit le président de la République. On peut peut-être l'écouter. D'ailleurs, il était à Melun, il était dans une classe. Il y a une jeune fille qui lui dit c'est tôt, monsieur le président, 19h. Et le président va répondre. Écoutez.
Ce qui me dérange vraiment le plus à cette pandémie mondiale, c'est que le couvre-feu, c'est un peu énervant.
Ah ouais.
C'est un peu tôt. Il fait beau dehors.
On va essayer de le décaler. Promis. On va le décaler un peu. Parce que 19h, c'est tôt, je suis d'accord. 19h, c'est très tôt.
Il a dit premier le président, mais comme chacun sait, les propesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Et en revanche, ça m'a étonné parce qu'il y a un ton peut-être du président qu'on n'a pas toujours entendu. Je ne sais pas si on peut isoler le moment où il dit « Ah oui, comme ça, j'ai pas trouvé que c'était peu présidentiel par rapport à son langage habituellement, le président de la République. » On peut réécouter juste ce petit passage, Greg Caranoni ? ou c'est compliqué ? C'est compliqué peut-être.
Ah ouais.
Vous voyez, ça m'a un petit peu étonné. Mais c'est dans le vif de l'action. David, bonjour. Vous êtes chauffeur routier au Mans.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pro.
Bonjour, oui. Bon, 19h. 19h, c'est bien, 19h.
Bon, c'est parfait.
C'est trop
parfait
tôt.
Pour rien faire, quoi.
Oui.
Pour rien faire.
Ah, bah ça, je vous l'annonce qu'on va avoir un drôle d'été.
Oh, bah non, mais il va nous remettre l'été en place. Les gens vont pouvoir repartir en vacances. Et puis au mois de septembre, on est reparti pour.
Possible.
Mais c'est fort possible.
Possible, écoutez, possible.
Comme vous avez dit tout à l'heure, le contrôle aux frontières, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que oui, par rapport au sujet d'avant, je pense que oui, il faudra peut-être remettre un contrôle aux frontières.
Bon, mais pour le 19h, vous trouvez par exemple que c'est... il faut le modifier, ce couvre-feu ?
Bon, il faudrait le modifier à 2h du matin. Non, mais bon, ça change rien. Vous voyez, moi, ça m'empêche pas de sortir, mais bon...
Bah oui, mais on peut pas faire grand chose. Je veux bien sortir, mais tout est fermé. Bah non, donc, qu'est-ce que vous faites quand vous sortez ?
Trois semaines, les enfants, ils étaient en vacances, ils ont rien fait, rien fait du tout. Ils ont pas pu aller voir leurs petits copains d'école, bien évidemment, parce que c'est les parents qui respectent aussi, ce qui est tout à fait normal. Mais là, déjà hier soir, ma conjointe avait déjà des mails de parents que des enfants ne seraient pas aujourd'hui à l'école parce qu'il y a deux enfants qui sont malades. Alors deux enfants qui sont malades du Covid.
Mais bon. En fait, vous voulez pas du tout parler du couvre-feu.
Le couvre-feu, si, parce que c'est énervant, on s'ennuie, on fait rien de nos journées, à part marcher, ma femme, elle a explosé, elle court beaucoup en ce moment, donc bon, elle fait que ça.
Courir. Mais elle a explosé moins, quoi, votre femme ?
Bah, à force de courir, elle explose les compteurs au niveau des kilomètres, puisque là, elle est vachement entraînée, elle s'entraîne pour les JO.
Ah bah ça c'est bien, au moins elle fait du sport, c'est parfait.
Oui, elle fait du sport, mais on peut faire que ça. On peut faire que ça.
Il y a un avantage également, c'est qu'on dépense pas beaucoup d'argent.
Bah, vous savez,
les commerces sont fermés, les restaurants sont fermés, et les gens même apprennent à peu dépenser d'argent.
Eh ben, je vais pas dire comme vous, monsieur Pro. Vous savez, en ce moment, avec la crise économique, les entreprises vont pas tellement bien. Quand vous mettez quelqu'un au chômage partiel, comme moi là aujourd'hui, bon, je travaille pas, je vais pas travailler beaucoup, je travaille 4 heures pour un chauffeur routier, c'est pas énorme. Et quand vous mettez des gens au chômage partiel qui sont payés 83% de leur salaire, ils font des économies, oui et non, parce que le coût de la vie, il est toujours pareil. Il y a même des trucs qui ont même augmenté pendant la période du Covid. Le crédit de maison n'a pas diminué, le crédit de voiture n'a pas diminué.
Non, mais forcément, les gens vont moins au restaurant et les gens achètent moins, consomment moins.
Mais oui, consommer moins, mais déjà, il n'y a pas forcément tout le peuple qui peut aller manger au restaurant. Là, en ce moment, avec les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui font faillite, il y a des gens qui perdent leur emploi. Moi, j'ai des amis à moi, ils sont payés 83% de leur salaire sur un mois. Ils perdent énormément.
Mais c'est intéressant, par exemple, ce que vous dites sur le restaurant. Vous, David, vous estimez dans la classe moyenne ?
Oui, je me
donc il y a deux salaires moyenne. Chez vous qui rentrent.
Oui.
Donc, ouais. Donc effectivement, vous avez une vie sans doute confortable.
Confortable, oui, parce que dans mon métier, il faut faire beaucoup d'heures dans le transport. Il faut faire beaucoup d'heures pour.
Et votre épouse travaille, elle est salariée. Oui, combien de fois, par exemple, vous allez au restaurant par mois ou par semaine ?
Par mois, entre les, il y a un an et demi, on allait au moins une à deux fois avec nos enfants au cinéma et après on les emmenait manger dans les fast-food le soir. Après on faisait des restaurants avec au moins deux restaurants avec mon épouse par mois sans nos enfants parce qu'ils profitaient de papy et mamie, tout ça. Donc là il n'y a plus rien.
Effectivement, vous alliez deux fois par mois au restaurant.
Bah, bien sûr. Et puis quand je vois tous les restaurateurs depuis le début de la crise sanitaire, ils ont tout mis en œuvre, ils ont tout fait, ils ont mis des masques, ils ont éloigné leur table, ils ont pris des mesures nécessaires, et ils n'ont même pas encore repris.
Bien sûr. Elle est au chômage partiel, votre épouse également, ou elle travaille à plein temps ?
Non, elle est fonctionnaire, elle est professeure des écoles, et même là, dans les écoles, ils sont débordés. Les cantines, les enfants, ils sont. Il y a certaines écoles qui peuvent accueillir les enfants et les mettre à 2 mètres. Il y a d'autres écoles où est-ce que
c'est plus dur. Et vous êtes chômage partiel en tant que chauffeur routier. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai travaillé 4 heures. C'est 4 heures aujourd'hui que vous avez travaillé ?
4 heures, mais en fait, si je fais plus de 35 heures, si je fais plus de 35 heures dans ma semaine,
oui.
parce que le chômage partiel, c'est basé sur 35 heures.
Mmh.
Si vous faites plus de 35 heures, genre, je vais travailler, je vais avoir 3 jours de chômage partiel,
mmh.
et je vais travailler 12 heures dans ma journée, je vais avoir 36 heures, mes 2 jours ne seront pas pris en chômage partiel, parce que j'aurai dépassé 35 heures.
D'accord. Et vous, vous êtes dans une, comment dire, vous êtes dans une entreprise, salarié dans une entreprise, ou vous avez plusieurs entreprises, vous êtes freelance?
Non, non, je suis dans le transport de pétrole. Moi. D'ailleurs, beaucoup de collègues à moi qui vont me reconnaître à la radio.
Et ils vont... Ah bon ?
Oui, mais c'est...
Bon, bah merci en tout cas de ce témoignage, parce que c'est toujours intéressant de pénétrer la vie
comme
des...
Comme vous dites, ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés.
Bah oui, c'est quoi, en tout cas déconnectés.
Entre le Premier ministre qui dit au mois de décembre il faut mettre Mémé et Pépé au pied de la bûche dans la cuisine,
mmh.
et à un moment, je ne sais pas...
Non mais moi ce qui m'ennuie c'est de prendre des mesures qui servent à rien.
C'est-à-dire que
alors l'histoire du masque à l'extérieur par exemple, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de transmission à l'extérieur. Donc pourquoi porter un masque à l'extérieur ? Le couvre-feu c'est encore autre chose, parce qu'on peut considérer que effectivement si on fait un couvre-feu plus tard, c'est encourager les gens à un peu sortir, donc s'ils sortent plus, le virus peut circuler plus.
Mais
pourquoi pas ? J'entends ça. Mais l'histoire du masque à l'extérieur, c'est quand même... S'il n'y a pas de contamination à l'extérieur, on enlève le masque à l'extérieur. Ou alors, s'il y en a, on le garde. Mais si les progrès...
Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui, genre, leurs enfants vont être malades, ils vont être malades du Covid, qui perdent déjà de l'argent tous les mois par rapport à ce qu'ils ont déjà perdu ? Est-ce que vous croyez que les gens, ils vont pas mettre leurs enfants à l'école ? Il y en a qui vont les mettre forcément.
Bien sûr.
Il y a un moment, et ça peut plus suivre. Il faut qu'ils prennent des décisions.
Bien sûr.
Ils disaient qu'il faut vivre avec. Eh ben, malheureusement, il va falloir vivre avec.
Mais bon,
les gens,
merci.
Là, ils n'en peuvent plus. Ça fait un an et demi.
Ah, moi, je suis d'accord avec vous que les gens n'en peuvent plus. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end, ils font la fête au but de Chaumont à Paris. Donc, ils n'en peuvent plus.
Ouais,
merci, David. Merci de votre sincérité, de votre gentillesse et de votre précision. On n'a pas, finalement, on a fait notre playlist sur les vieux. Ça a été assez rapide pour les boomers.
Ah, ouais.
Qu'est-ce que vous dites ? J'ai entendu quoi là, Greg ?
Ah Carole ? Ouais.
Oui, bah, on va pas le faire, on va pas le mettre en.
Vous voulez Daniel Guichard ?
Sa chanson Mon Vieux ?
Dans son vieux, par-dessus
râpé,
il s'en allait
l'hiver, l'été,
dans le petit matin frileux. Mon vieux.
Alors, on parle évidemment des vieux parce que c'est les boomers. Les boomers !
Par semaine, les autres jours, c'était la
grève. Et c'est.
Gagner comme on peut.
Europe Écologie, les Verts qui a stigmatisé les boomers. Donc on écoutera, tiens, un boomers. Peut-être après, c'est Jackie. Et Jackie, il n'est pas tout seul. Hein. Je tiens à le préciser.
C'est-à-dire ?
Vous connaissez pas cette chanson, Jackie, t'es pas tout seul. Le problème, c'est que vous connaissez rien, les jeunes. Jackie, t'es pas tout seul, vous connaissez pas Jacques
Mais
Brel.
Avec qui il était ?
Bon, allez, la pause, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur... Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Si un jour à Knokke-le-Zoute, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes.
La chanson de Jackie, on est avec Jackie sur les Boomers. Bonjour Jackie.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez été froissé par la campagne d'Europe Écologie, les Verts stigmatisant les plus de 70 ans ?
Eh ben non, justement, j'appelle, je ne suis pas froissé, c'était juste pour rassurer M. Bayou. Moi, j'ai voté écologie, c'était M. Dumont, alors je ne sais plus si c'était en 74. Ou
c'est René Dumont, je vous le confirme, qui avait un pull-over rouge en 74, voilà. Il a fait moins d'1% des voix,
voilà,
je crois, en 74.
Il y avait 700 000 personnes qui avaient voté pour lui.
Ah, ça c'est formidable.
Avec plein d'espoir, et puis pendant quelques années, bon, bah, j'ai suivi un peu tout ça, en me disant, pour moi l'écologie c'était un... Bon, je dirais un état d'esprit. On respectait la nature, on respectait les autres. Et puis petit à petit, ben, ça s'est mis avec des partis qui n'ont pas arrêté de se prendre un peu le chignon. Après, il y a eu Madame Voilet, puis Cohn-Bendit, là, c'était le truc terminé. Donc j'ai regardé ça de loin. Moi, je me suis contenté de vivre mon écologie à moi. Et je me suis rendu compte qu'ils sont devenus de plus en plus intégristes. Et
de plus en plus à gauche, parfois aussi.
Oui, mais bon, ben, ça me gênait pas trop, hein, parce que j'ai voté la seule fois où j'ai, enfin, une des rares fois où j'ai voté autre que les écologistes, c'était en 80 pour Mitterrand. On a bu 21 bouteilles de champagne. Mais trois mois après, on était un peu déçus. Donc, c'est pas trop le fait qu'il soit à gauche. Pour moi, ça veut rien dire. L'écologie, pour mon, comme je vous le disais, c'est un état d'esprit. Donc, ça veut gauche, droite, centre, ça devrait même pas être un parti, quelque part. Et là, quand je vois que M. Bayou a l'air de penser que les jeunes ne vont pas aller voter et que les vieux vont aller voter, ben, je voulais le rassurer. J'ai tellement été déçu par toutes les écolos et puis les autres que maintenant je ne vais plus voter. Donc, je ferai partie des boomers qui n'iront pas voter. Et je pense qu'on est assez nombreux, d'ailleurs, de plus en plus.
Alors, je rappelle, hein, tout le monde d'abord ne connaît pas Julien Bayou, hein, qui est la tête de liste d'Europe Écologie Les Verts au régional en Île-de-France. Et il a donc publié sur les réseaux sociaux une série de visuels qui déclinent les exemples de supposés adversaires de l'écologie. L'objectif était d'inciter les propres sympathisants du parti à aller voter. Mais sur l'une des images retirées depuis, figuraient des personnes âgées souriant et le slogan « Les boomers ». Eux ont prévu d'aller voter.
Et ben voilà, je voulais leur assurer.
Et sous-entendu, les boomers votent à droite. Hein. Il y a aussi cela, hein, parce que.
Oui, voilà. Oh, je ne sais pas si c'est une majorité. Enfin, je sais pas.
A priori, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'on dit souvent. Qu'ils votent plutôt à droite, ou ils ont voté plutôt à droite. Tout ça à grands traits.
Moi, j'ai 73 ans, donc j'en connais beaucoup. J'en ai pas trouvé un qui m'a dit qu'il avait voté Macron. Ou ils n'ont pas voté, ou ils ont voté Le Pen.
Bon, vous êtes un vrai baby-boomer ?
Ah ben oui, je suis de 68, je suis de 48, donc j'avais 20 ans en 68. Je n'étais pas sur les barricades, j'étais à côté.
Non mais vous êtes la génération dorée, là vous avez tout eu.
Ah ben oui, non mais ça c'est...
Vous avez eu la liberté, vous avez eu le pouvoir d'achat, vous avez eu les 30 glorieuses, vous avez eu... Franchement, voilà. Vous avez les belles retraites, vous avez tout pour vous. Hein.
Absolument, et on est bien placé pour se rendre compte de la manière dont c'est en train de tourner. Globalement, et que toutes ces choses-là, on est en train de les perdre.
Bah, vous êtes une génération, vous savez, c'est assez rare en plus dans l'histoire, 30 ans sans maladie, sans guerre, pouvoir d'achat XXL, etc. C'est une génération dorée qui a été la vôtre.
Et ce qui est dommage, c'est que ceux qui étaient sur la Sorbonne ou ailleurs, je parle uniquement pour la France, hein, en 68, qui faisaient des grands discours et autres, moi j'y étais à la Sorbonne le 2-3 heures avant qu'ils aient viré, c'est ce qu'on appelait les Katangais, je crois, à l'époque.
Bon, merci Jackie, merci, et on voulait terminer cette émission avec Ghislaine qui voulait rendre hommage à Yves Régnier. Bonjour Ghislaine.
Oui, bonjour Pascal, je suis contente de parler.
Je vous en prie.
Oui, moi je voudrais rendre un hommage à Yves Régnier parce que c'est quelqu'un que j'aimais énormément et ça me fait beaucoup de peine de parler au passé. Parce que moi, je suis une génération où, je pense que c'était le dimanche, je regardais les Globetrotters, donc ce feuilleton, la mythique, que j'adorais parce que j'avais qu'une envie, c'était de faire le tour du monde. Et vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. D'abord, une petite anecdote, j'avais encadré sa photo que j'avais posée sur ma table de nuit, vous voyez, parce que je trouvais que c'était un joli garçon et un très bon acteur. Et ensuite, toute sa carrière a été formidable, dont Le Commissaire Moulin, toutes ces téléfilms qu'il a fait, donc concernant les affaires judiciaires, donc elles sont vraiment formidables. Et puis le doubleur aussi qu'il était, donc dans Crocodile Dundee. Vraiment, c'est quelqu'un que, et en plus, je sais que c'est quelqu'un qui était très impliqué dans la protection animale. Donc ça aussi, ça me touchait beaucoup et je voudrais vraiment présenter mes condoléances à toute sa famille parce que vraiment, c'est quelqu'un, puis de toute façon, on ne l'oubliera pas. Hein.
Et puis quelqu'un qui faisait l'unanimité par sa gentillesse et sa sympathie. Merci beaucoup, vraiment, Ghislaine. Merci beaucoup, c'est l'heure du débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Après l'attaque de Rambouillet vendredi, faut-il une nouvelle loi antiterroriste ? Ami des anciens policiers, il a poussé un coup de gueule au 32-10.
Là, il faut que maintenant que quelqu'un prenne ses patins, comme on dit vulgairement parlant. Et là, maintenant, c'est même plus un tour de vis qu'il faut donner, c'est 10 tours de vis. Hein. Déjà, reconstruire des prisons, faire des perpétuités réelles, tout ce qui n'a rien à faire chez nous. Dehors.
Faut-il décaler l'horaire du couvre-feu ? En avez-vous marre d'être chez vous à 19h ? Emmanuel Macron a parlé du sujet ce matin avec une élève de CM2 dans une école en Seine-et-Marne.
Ce qui me dérange vraiment le plus à cette pandémie mondiale, c'est que le couvre-feu, c'est un peu énervant.
Ah ouais.
C'est un peu tôt. Il fait beau dehors.
On va essayer de le décaler. Promis. On va le décaler un peu.
19h, c'est tôt, je suis d'accord. 19h, c'est très tôt.
19h, c'est très tôt. Une réaction, cher ami Pascal?
C'est très tôt, 19h, on est au café.
C'est le petit déjeuner.
C'est le petit déjeuner. Ah oui, et que disait déjà Anne Hidalgo sur les Parisiens?
À 18h, on est en milieu d'après-midi à Paris, hein.
Ah, mais soyons sérieux, cela vous énerve, Pascal, cette histoire de couvre-feu à 19h.
Si 19h, c'est tôt, 22h, c'est peut-être tard. Et 20h, c'est un peu comme 19h. Donc ça pourrait être peut-être 21h, le couvre-feu. Je réfléchis à haute voix. Mon Dieu!
Et là, vous êtes joueur, vous nous rappelez aussi l'objet d'un pari national.
Les terrasses ouvertes à Paris, c'est pas demain, hein. Je vous le dis, parce que comme le virus circule... Je serais étonné que les terrasses des restaurants rouvrent à la mi-mai. Hein. Je vous le dis, et j'avais dit Paris ma chemise, vous vous souvenez?
Ah ben on s'en souvient parfaitement, oui. Bah, je crois qu'on l'avait dit même.
Je crois que j'ai gagné ma chemise.
Vous imaginez, cher président Emmanuel Macron, Pascal Pro faire tomber la chemise?
Ah ouais.
Ah ouais, et sinon un autre sujet ce midi?
Si vous êtes boomer, appelez-nous.
Oui, polémique sur les réseaux sociaux du candidat Europe Écologie Les Verts au régional en Ile-de-France, Julien Bayou. Comment inciter les citoyens à aller voter, publier une image de personnes âgées souriantes et le slogan « Les boomers, eux, ont prévu d'aller voter ». Bon là...
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
Eh oui, apportons, allez, un petit peu de sourire dans cette émission.
On pourrait peut-être, pour égayer un peu cette émission qui est lourde forcément, se faire une petite playlist des chansons de vieux.
Alors égayer, c'est peut-être un bien grand mot parce que lorsque je recherche des chansons de vieux, c'est pas toujours très gay, mais...
Alors... Les vieux ne parlent plus. Ou alors seulement parfois.
Il est bientôt l'heure d'en effet pour s'entendre. Un dernier mot, Pascal?
Problème, c'est que vous connaissez rien, les jeunes.
Oh, bon, d'accord, si vous voulez.
Ok, boomer.
Voilà, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui nous animera lors de la réouverture des terrasses. Avec la chemise, peut-être, de Pascal Pro.
Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais.
Les fêtes, l'ouverture des fêtes à Bayonne, lorsque tout Bayonne chante cette chanson.
Génial.
C'est les larmes aux yeux, l'émotion qui gagne la ville à ce moment-là. Il n'y aura pas les fêtes à Bayonne.
On sautait cette année. Tous les uns sur les autres.
Oui, alors certains en tout cas, mais ça ne sera pas pour cette année. Elle est éternellement jeune, elle est très loin de l'âge des boomers et elle reste pour nous cette brise légère dans la canicule de l'été. Flavie Flamand arrive.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole.